dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bienvenue dans l'Amérique et vous, Eric Manilakiza sur ce micro de VOA Afrique. Notre sujet de ce soir, Jimmy Carter, l'héritage d'un président pacificateur. Michel Pierre-Joseph assure la réalisation de cette édition. Peu de présidents américains ont marqué l'histoire par une vision aussi singulière que celle de Jimmy Carter. De 1977 à 1981, ce président, souvent sous-estimé sur la scène intérieure, s'est imposé sur le plan international comme un artisan infatigable de la paix, des droits humains et de la démocratie. Son engagement moral et sa diplomatie visionnaire, incarnée par les accords de Camp David et la rétrocession du canal de Panama, on redéfinit les valeurs de la politique étrangère américaine aujourd'hui, donc ce soir, alors que le monde se souvient de lui, son impact sur les luttes pour la justice, les droits des femmes et les Africains-Américains et l'Afrique reste au cœur des débats. Dans cette émission, nous explorons l'héritage complexe et profond de Jimmy Carter avec nos invités. Mohamed Bodge, professeur d'histoire à Manhattanville University à New York, est avec nous en ligne. Professeur Bodge, bonsoir et bienvenue dans l'Amérique et vous.
Bonsoir.
Nous aurons également Ahmedou Ould Abdallah, ancien haut fonctionnaire onusien que nous essayons de joindre. Nous allions avoir aussi Karine Kanezan-Antouria, directrice du plaidoyer pour l'Afrique à Human Rights Watch, malheureusement. Elle ne pourra pas se joindre à nous. Nous allons commencer avec vous, professeur Mbodge. Comment définiriez-vous la personnalité de Jimmy Carter, souvent perçu comme faible par ses contemporains à Washington, et comment son éthique morale a-t-elle influencé ses décisions en tant que président?
Je crois que son éthique morale a dominé ses interventions. Ce qui ne veut pas dire que cette éthique soit, comme certains semblent le dire, dictée par sa foi chrétienne et seulement par sa foi chrétienne. C'est un homme politique, c'est un homme qui est réaliste et il a été le président d'un pays qui était confronté à une rivalité, à la guerre froide avec l'Union soviétique. Et donc, il a aussi fait des coups. Il a certainement, en particulier dans sa campagne contre Gerald Ford, il a asséné des coups, disons, dont on s'attend à ce que ça soit assumé lorsque, effectivement, il y a un combat politique à mener. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de quelque chose de bizarre, c'est plutôt la manière dont certains essaient de d'écarter
et de le présenter
comme quelqu'un qui est qui était faible et qui ne pensait pas du tout aux intérêts des États-Unis mais simplement à ce qu'il va laisser dans la postérité. Je pense que c'est très injuste. C'est un homme politique très influent, très important, qui avait des idées sur ce que le futur va amener au monde et aux États-Unis et qui a agi dans la mesure de ses possibilités, mais toujours dans une sorte de fenêtre éthique, dans une fenêtre de d'honnêteté où il disait la vérité plutôt que de mentir pour ensuite venir, disons, se confier pour dire qu'il ne pouvait pas dire la vérité à l'époque. Voilà.
Oui, le pape François a salué son engagement motivé par une foi chrétienne profonde. Est-ce que vous pensez que cette foi a façonné son leadership mondial?
Oui, bon, d'une manière générale, surtout le poste, disons, après sa présidence, il est certain que c'est quelqu'un qui a insisté sur sa foi. C'est quelqu'un qui s'est laissé guider par sa foi. C'est quelqu'un qu'on a souvent vu dans les écoles du dimanche, dans les écoles donc pour donner des cours sur la Bible, etc. Donc c'est une image réelle de l'homme, mais dire que tout ce qu'il a fait est peut-être rangé dans cette catégorie, je crois que c'est un peu perdre de vue la dimension de cet homme. Après tout, par exemple, c'est un militaire de carrière. Parmi les présidents des États-Unis, il n'y a eu que 3 militaires de carrière, de formation, Eisenhower, Grant et Carter. Donc là, ça laisse des traces. Hein? Donc dire simplement que effectivement, ce sont une sorte de témoignage chrétien qu'on doit retenir de lui, je pense que c'est réduire la dimension de l'homme.
Selon vous, comment Jimmy Carter a-t-il contribué à renforcer les luttes pour les droits des femmes et des Africains américains aux États-Unis et dans le monde?
Oui, il a nommé des fonctionnaires dans l'administration à des positions, des juges, plus que tous ses prédécesseurs réunis, aussi bien pour des femmes que pour des Noirs. Et donc, de ce point de vue-là, il est certain que il a laissé une marque sur la façon de faire en sorte qu'il y ait une sorte de rattrapage d'une injustice, en particulier qui était plus ou moins le lot de ces couches qui n'étaient pas toujours considérées comme étant capables de faire fonctionner donc à de hautes postes de responsabilité la nomination de quelqu'un comme Andrew Young. Dans son cabinet, il y a beaucoup d'autres personnes qu'il a nommées. Et il a aussi, je crois, d'une certaine façon, inspiré des gens. Et je suis certain que des personnes comme Barack Obama ont dû être inspirées par l'exemple de Carter.
Oui. Alors, en 1978, Carter fut le premier président américain à visiter l'Afrique subsaharienne. Comment cette démarche a-t-elle marqué un tournant dans les relations États-Unis-Afrique?
D'abord, il est certain que sur le plan des relations humaines, avoir la présence du leader de la nation la plus avancée, la plus puissante, la plus forte, presque sur tous les plans sur son continent était assez important, d'autant plus que l'Afrique se sentait laissée pour compte. L'Afrique était le champ où la rivalité entre l'Occident et l'Union soviétique se manifestait, ce qui fait que d'ailleurs la notion de guerre froide n'est pas valide pour le champ africain où c'était vraiment une guerre chaude. Et des millions d'Africains sont morts donc dans cette confrontation, évidemment avec des agents interposés, disons, entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et donc avoir le président des États-Unis visiter des sites où des esclaves avaient été embarqués et envoyés donc sur le continent américain, avoir un président qui reconnaissait que effectivement non seulement l'Afrique dans le passé avait été victime de mauvais traitements, mais que l'Afrique ne recevait pas le respect qu'elle devait avoir au plan actuel. Je pense que beaucoup de pays africains, même s'il n'y avait pas quelque chose d'extrêmement tangible sur le plan économique, de l'argent ou des équipements, etc., avaient apprécié cette forme de politesse qui consistait à reconnaître que sur la planète Terre, il n'y avait pas que l'Asie et l'Amérique et l'Europe. Et je pense que de ce point de vue-là, les Africains respecteront et honoreront toujours Carter.
Et comment vous évaluez son rôle dans la transition en Rhodésie et sa politique vis-à-vis de l'Afrique du Sud pendant l'apartheid?
Certainement, sans son insistance, sa persévérance à encourager les Anglais qui, peut-être à un moment donné, pensaient qu'ils n'avaient pas la capacité de réconcilier donc, les supporters de Ian Smith et les supporters de Robert Mugabe. Donc, on sait que c'est la diplomatie souterraine américaine qui a permis à ces accords de Lancaster House de se concrétiser. Et à partir de là, il a utilisé et il a préconisé et utilisé ce modèle pour l'Afrique du Sud. Donc, qu'il y ait des négociations, mais en dehors du pays où ce conflit existe. Et c'est des négociations qui ne sont pas seulement des négociations de type politique, mais qui entrent aussi dans la reconnaissance de la légitimité, disons, de ce qu'on peut appeler de la, des intérêts des uns et des autres, mais surtout de regarder dans le futur si les deux parties sont convaincues que dans le futur, ils doivent cohabiter ensemble. Donc, à ce moment-là, ils doivent régler ces problèmes et faire en sorte que l'ascendance à la règle de la majorité ne signifie pas la destruction de la minorité et, d'une manière générale, de reconnaître que effectivement ces pays-là ne pouvaient pas être en marge de la société civile internationale. Et donc, il a utilisé et il a poussé à ce que les États-Unis utilisent le même modèle dans leur tractation pour résoudre les problèmes en Afrique du Sud et en Namibie en particulier.
Les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte sont considérés comme une victoire diplomatique majeure. Quelles leçons en tirer pour la diplomatie moderne?
Oui, ça montre que là aussi, lorsque deux dirigeants sont convaincus de ce que le futur peut apporter à leur pays, ils peuvent quelquefois faire la sourde oreille aux vituperations extrémistes, disons-le, qui veulent tout gagner et tout emporter et ne rien laisser à l'adversaire. Donc, le compromis. Deuxièmement, les mettre dans des conditions où face à face, ils peuvent négocier, ils peuvent se parler s'ils le désirent et arriver à des résultats concrets. Et troisièmement, faire en sorte que les États-Unis, comme première puissance mondiale, se portent garant de ces accords et ne pas seulement laisser la plénitude, disons, du respect de ces accords entre les mains des deux adversaires, mais faire en sorte que non seulement les États-Unis sont là comme une garantie morale, mais aussi comme une garantie économique, comme une garantie militaire, pour que ces accords puissent perdurer. Et je pense que pour la diplomatie moderne, les accords de Camp David restent pour l'instant un modèle qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore trouvé mieux, en quelque sorte.
Alors, sa politique étrangère basée sur la moralité est-elle encore pertinente dans le contexte actuel?
Oui, je pense que la moralité est toujours actuelle. Que nous l'acceptons et que nous la pratiquons, tant mieux. Que nous ne l'acceptons pas et que nous ne la pratiquons pas, bon, tant pis. Mais d'une manière générale, nous sommes une société humaine. Nous sommes solidaires les uns des autres. Et sur cette planète Terre, tout ce que les Américains font vont avoir des répercussions sur leurs voisins, vont avoir des répercussions sur les Africains, vont avoir des répercussions sur tout le monde et vice-versa. Donc, cette moralité-là doit tenir en compte cette conviviabilité qui fait que les nations sur Terre et les populations sur Terre se disent la vérité et fassent des compromis les uns avec les autres, des compromis qui ne sacrifient pas des principes moraux, des compromis aussi qui ne se font pas sur le dos, en particulier de minorités qui peuvent être, sacrifiées sur l'autel de la de ce qu'on peut appeler la convenance. Donc, ils ne pèsent pas lourd, donc on ne peut pas garder leurs intérêts. Donc, la moralité et le sens éthique dans la diplomatie, je pense que ça restera. Maintenant, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des phases de diplomatie de la canonnière, il y a eu des phases de diplomatie de l'occupation impérialiste des pays des autres, etc., etc. Mais je pense que nous avons tourné la page sur ces méthodes, sur ces périodes. Et nous sommes entrés dans un domaine où la moralité est de plus en plus partagée par un plus grand nombre de personnes, toujours pas sur le même plan d'égalité, peut-être même pas selon la même définition de la moralité, mais c'est la seule solution possible.
Quels ont été les impacts durables de ces initiatives en Afrique, notamment dans la santé publique avec l'éradication du ver de Guinée? En quoi son travail avec la Carter Foundation a-t-il fait une différence pour les communautés les plus vulnérables?
Est-ce qu'il y a moyen qu'on vous cadre?
Alors, je pense qu'en ce qui concerne en particulier la lutte contre le ver de Guinée, l'oncocercose et tout ça, Carter a bien montré qu'au-delà de simplement utiliser les moyens techniques, biologiques créés par les pharmacies, etc., etc., que la santé publique était une œuvre de volonté populaire et qu'il faut impliquer les gens dans leur propre salut, dans leur propre structure de santé, et faire en sorte que, effectivement, et c'est comme ça que ce programme a eu le succès. Il s'est appuyé sur le leadership local, sur la participation populaire des populations concernées et sur la diffusion la distribution de ce genre de, disons, d'action à des acteurs qui se sont appropriés en quelque sorte l'idée, qui se sont approprié l'action, à qui on a remis des moyens qui sont toutes modestes comparés à des moyens dépensés, par exemple, dans la lutte contre le Covid, etc., etc. Et c'est un peu un modèle à suivre. Malheureusement, ce n'est pas évident du tout, parce que nous avons une sorte de croyance aux solutions techniques finales. Il suffit de donner aux gens cette pilule ou cette autre pilule. Il suffit. Alors qu'en réalité, on ne peut pas imposer aux gens, même lorsqu'il s'agit de leur propre santé, de prendre des mesures et d'agir s'ils ne sont pas convaincus que non seulement c'est dans leurs intérêts, mais aussi qu'ils ont leur part à jouer, qu'ils ne sont pas seulement les récipiendaires de quelque chose, mais aussi les acteurs dans cette action.
Une dernière question. Je sais que vous avez une autre émission tout à l'heure avant de vous laisser partir. Que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de Jimmy Carter dans la politique américaine internationale?
C'est certainement la primauté des droits de l'homme qui, même si avec Trump, peut-être, elle ne sera pas aussi importante, mais elle sera là. Certains diront d'ailleurs que peut-être Trump va même l'utiliser de façon insidieuse, je ne suis pas sûr, cynique plutôt, c'est le mot que je voulais utiliser, mais je pense que ça va rester. On ne peut pas vendre aux Américains l'idée d'une coopération et d'une fidélité et d'une amitié des États-Unis avec des régimes qui détruisent leur population, avec des régimes qui ne se soucient pas des droits de l'homme, avec des régimes inégalitaires où les minorités et disons, certaines catégories de population sont ignorées ou, et même pire, massacrées. Ça, je pense que ça va rester.
Merci beaucoup, professeur Mbodge. Vous êtes très sollicité. Il y a eu des interférences tout à l'heure. Merci beaucoup pour votre contribution dans l'Amérique. Vous, on va recevoir finalement Ahmedou Ould Abdallah qui vient de nous rejoindre. Professeur Mbodge, merci. Bonne soirée. Monsieur Abdallah, bonsoir.
Bonsoir, désolé.
On a eu beaucoup de difficultés. Oui, il nous reste 5 minutes. Vous avez rencontré le président Carter à 2 reprises lors de vos échanges avec Jimmy Carter. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans son approche des relations internationales?
Merci beaucoup. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est la personne elle-même. Sa modestie, sa tolérance. Deuxièmement, son grand souci de soutenir la paix, et on ne doit jamais oublier l'accord de paix entre l'Égypte et Israël, l'accord de Camp David, n'a pas été suivi de Il n'y a pas eu de situation pareille avant. Il n'y en a pas eu, à ma connaissance, après qui ait duré. Deuxièmement, ce qui m'a impressionné, c'est la compassion, la sympathie qu'il a pour le continent africain. D'abord, il est le premier président américain à avoir visité l'Afrique. Deuxièmement, le soutien à des pays, à des épidémies comme le ver de Guinée, l'observation des élections. Quand je dis le premier président qui a visité les États-Unis, je sais que Roosevelt a été au Maroc, mais c'est dans le cadre d'un transit en route pour la Deuxième Guerre mondiale, pour régler certains problèmes. Donc, visite en Gambie quelques heures et le Maroc. Mais la visite officielle d'un président américain, c'est Carter au Nigeria et en Afrique. Et il a beaucoup de sympathie pour les droits de l'homme, la transparence. Et ça, je trouve que c'est très important. Et nous n'étions pas à la fin de la guerre froide. C'était en pleine guerre froide. D'oser, de faire des choses de ce genre, de les défendre, c'était à l'honneur de l'Amérique et à l'honneur du président Carter, qui a grandi dans des régions quand même très difficiles, la Géorgie. Mmh. Donc, je garde de lui un très bon souvenir pour le continent, pour la démocratie et la transparence.
Et vous avez même échangé des lettres. Quels éléments expliquent l'approche singulière de Jimmy Carter dans la diplomatie internationale et quelle a été son influence sur les grandes initiatives onusiennes concernant les droits de l'homme et la paix?
Oui. Alors, moi, j'ai eu la chance de le connaître et des échanges avec lui quand il a fait sa fondation grâce à plusieurs personnes, dont Anne Koch Chambers, qui était son ambassadrice et amie à moi. Et Carter a introduit donc le soutien aux droits de l'homme. C'était une nouveauté pour les nouvelles générations. Ils ne savent pas, les droits de l'homme, c'était pas dans les pays d'Europe de l'Est, ni en Asie et en Afrique, au Moyen-Orient et l'Amérique latine. C'est Carter qui a poussé pour cela. L'observation des élections démocratiques, c'est lui qui a poussé pour ça. Mais surtout, cet accord entre Égypte et Israël, je pense qu'il y croyait sincèrement à cette nouveauté. Il a soutenu, après la visite de Nixon Kissinger en Chine, c'est celui que les ambassades ont ouvert entre la Chine et l'Amérique. Donc, c'était un homme, par son comportement, son attitude, il était en avance sur ce qui allait arriver avec la fin de la guerre froide. Je crois que ça a beaucoup aidé, le fait qu'il ait préparé ce terrain. Voilà ce qui m'a marqué. Et jusqu'à présent, les élections, l'observation des élections doit beaucoup à Carter. Et je pense que pour cela, qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Et une fois de plus, comme Africain, je suis très content de la sympathie qu'il a pour l'Afrique. Et beaucoup de présidents africains ont visité, européens, présidents européens, occidentaux ont visité l'Afrique après lui. Les autres venaient dans les régions qui étaient les anciennes colonies.
Oui. Il nous reste moins d'une minute. Quelles actions ou politiques pourraient perpétuer son modèle de leadership éthique et moral?
Alors, le modèle, d'abord, à mon avis, c'est plus facile maintenant avec la transparence. Le modèle, c'est le soutien à la transparence. C'est très important. L'un des plus grands problèmes, par exemple en Afrique, pour moi, est la corruption. Et quand je dis la corruption impunie. Il y a la corruption en Amérique, en Europe, mais c'est l'impunité. Parce que on ne laisse pas la police faire son travail, la justice faire son travail et la presse faire son travail. Donc, lutter contre la corruption en faveur de la transparence, c'est extrêmement important parce que ça permet le respect du gouvernement, l'investissement. Et voilà l'autre chose que j'espère qui reste, c'est la modestie.
Merci beaucoup, Ahmedou Ould Abdallah, l'ancien président Jimmy Carter, par son humanisme et son engagement inébranlable. Laisse un héritage intemporel. Eric Manilakis a été avec vous au micro. Michel Claire-Joseph a assuré la réalisation. Merci au professeur Mohamed Mbodj pour aussi sa contribution. Je vous souhaite une agréable